Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La souffrance des enfants est un scandale auquel seul le Christ peut donner une réponse. Le pape François a exprimé ce samedi matin sa proximité avec les cancéreux en demandant aux médecins de soigner l'homme dans sa globalité, corps et âme. Le pape François qui se prépare à ouvrir la Semaine Sainte en présence de nombreux jeunes ce dimanche sur la place Saint-Pierre. Tous les détails dès le début de ce magazine. Nous évoquerons également les méditations du chemin de croix au Colisée. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Grande fête ce dimanche sur la place Saint-Pierre. En présence de nombreux jeunes, le pape François bénira les rameaux. Il présidera la procession et la célébration de la messe suivie de l'Angélus. Vous pourrez y participer comme si vous étiez sur place en vous connectant avec notre site internet www.radiovaticana.va. À partir de 9h30 sur le player audio de Radio Vatican, les images de la messe seront commentées en français. Cyprien Viette.
Ce sera un des temps forts de la célébration des rameaux ce dimanche. Un groupe de jeunes brésiliens remettra solennellement la croix des JMJ aux jeunes polonais qui la porteront en pèlerinage jusqu'à Cracovie. Après Rio de Janeiro en 2013, c'est dans l'ancien diocèse de Jean-Paul II que se tiendront les prochaines journées mondiales de la jeunesse en juillet 2016. Avec la croix, les jeunes brésiliens remettront également aux organisateurs polonais l'icône mariale Salus Populi Romani qui fera aussi le chemin jusqu'à Cracovie. Cette tradition du relais de la croix des JMJ et de l'icône de Marie, instituée par Jean-Paul II, est désormais bien ancrée dans la vie de l'Église. Le passage de relais se tient toujours place Saint-Pierre lors du dimanche des rameaux suivant les dernières JMJ. La liturgie des rameaux qui ouvre la Semaine Sainte est toujours riche en symboles. Le Saint-Père utilisera une crosse réalisée par les détenus de la prison de San Remo en Italie, près de la frontière française. Comme chaque année depuis le XVIe siècle, c'est également de San Remo que proviennent les quelques 3000 palmes tressées qui seront distribuées aux personnes présentes sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Une palme spéciale de 2 mètres de haut, symbolisant la Sainte Trinité, sera également remise au pape François. Par ailleurs, quelques 200 000 branches d'olivier ont été offertes pour la 15e année consécutive par une coopérative de la région italienne des Pouilles qui assure également la décoration florale de la place dans le pur style du maquis méditerranéen. 13 oliviers centenaires ont été disposés le long de la colonnade du Bernin et un espace symbolique a été aménagé autour de l'obélisque pour évoquer le jardin des oliviers.
Et à l'occasion de la fête du dimanche des rameaux qui évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, aura lieu à Rome l'ouverture officielle au public des catacombes des Saint-Pierre et Marcellin. Il s'agit d'un des complexes paléochrétiens les plus significatifs de la Rome souterraine. Des travaux ont été entrepris pour rendre plus attractif le parcours des visiteurs jusqu'à la petite basilique qui conserve les tombes des deux martyrs tués pendant les persécutions de l'empereur Dioclétien. Des tombes vides puisque les reliques ont été transférées en Allemagne au IXe siècle. Les visiteurs pourront notamment admirer une des 80 fresques restaurées par la Commission pontificale d'archéologie sacrée avec la contribution financière de l'Azerbaïdjan. Cette fresque représente plusieurs martyrs ensevelis dans ces mêmes catacombes, dont le joyau et le mausolée de Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Galerie d'art souterraine, unique au monde, les catacombes des Saint-Pierre et Marcellin vont donc ainsi devenir un site d'attraction puissant pour le tourisme religieux et culturel, et en particulier pour les marcheurs de la Via Francigena. Les visites auront lieu tous les samedis et dimanches à partir du 13 avril. La crise économique, ses injustices et ses graves conséquences sociales seront au cœur cette année du traditionnel chemin de croix présidé par le pape François au Colisée de Rome. Les textes des méditations de Mgr Brigantini seront publiés mardi par la librairie éditrice Vatican. Xavier Sartre.
L'auteur des méditations, l'évêque italien Mgr Giancarlo Brigantini, est connu pour le courage de ses prises de position contre le crime organisé. Rien d'étonnant à ce qu'il ait choisi d'évoquer les fléaux qu'il a côtoyés dans son ministère de pasteur dans le sud de l'Italie. Le long des 14 stations, il fait défiler la précarité de l'emploi, le chômage, la spéculation financière, les suicides des chefs d'entreprise, les plaies de la corruption et de l'usure, les cancers provoqués par les déchets toxiques, les prisons surpeuplées. Il n'oublie pas non plus le drame des immigrés en quête d'asile, les violences infligées aux femmes, le traumatisme subi par les enfants victimes d'abus, le gouffre de la drogue, le tourbillon de l'alcool, la douleur des mères. Les laissés pour compte de la société actuelle sont tous là, dans le bois de la croix, mais en Jésus qui tombe à trois reprises, Monsieur Brigantini indique la certitude de l'espérance. En lui, nous apprenons à accepter nos fragilités, à ne pas nous décourager devant les échecs. La prière rend toute croix plus légère. La fraternité nous aide à découvrir Dieu en chaque être humain. Il faut construire des ponts de solidarité, vaincre la peur de l'isolement, rétablir la confiance à l'égard des politiques.
Le pape François pense et prie pour tous les malades du cancer. Il l'a assuré en recevant ce samedi matin un groupe d'oncologues italiens réunis en congrès à Rome. Le Saint-Père a salué les progrès de la recherche scientifique en matière de prévention et de thérapie. Mais il a tenu à rappeler que la personne humaine est composée de deux dimensions étroitement unies, le corps et l'esprit qui peuvent être distingués certes, mais jamais séparés. Ainsi, la maladie, la douleur, la souffrance ne concernent pas seulement la dimension corporelle de l'homme, mais son ensemble. D'où l'exigence de veiller à ce que les soins médicaux s'accompagnent d'un soutien humain, psychologique et social, d'un suivi spirituel et d'une assistance aux familles. Citant Jean-Paul II, le pape François a souhaité que les professionnels de santé soient guidés par une vision intégralement humaine de la maladie. La beauté de la vie humaine comprend aussi sa fragilité. Il faut savoir reconnaître la dignité et la valeur de chaque être en toute situation, de la conception jusqu'à la mort. Tant de fois comme Dostoïevski a-t-il lancé « Je me demande avec angoisse pourquoi les enfants souffrent ». Seul le Christ peut donner une réponse au scandale de la douleur innocente.
Da senso allo scandalo del dolore innocente.
Avec la paix, rien n'est perdu, avec la guerre, tout peut l'être. Ce célèbre appel du pape Pie XII aux belligérants de la Seconde Guerre mondiale, le pape François l'a fait sien ce samedi. Des paroles prophétiques, a-t-il dit, qui nous montrent combien l'histoire est maîtresse de vie, selon la formule bien connue de Cicéron. Le Saint-Père s'adressait au comité pontifical des sciences historiques qui prépare un congrès international consacré au centenaire de la Grande Guerre, un massacre inutile, comme l'affirmait Benoît XV. L'accent sera mis sur les initiatives diplomatiques du Saint-Siège pendant ce conflit tragique et sur la contribution offerte par les chrétiens auprès des blessés, des réfugiés, des orphelins, des disparus et dans la reconstruction d'un monde déchiré. Le pape François a encouragé le travail du comité qui peut aider ceux qui ont aujourd'hui pour tâche de discerner ce que l'Esprit Saint veut dire à l'Église. Car l'histoire de l'Église est faite d'évangélisation, d'espérance, de lutte quotidienne, de service, de constance, mais aussi d'infidélité, de reniement et de péché. La recherche historique est une voie privilégiée dans la recherche de la vérité. Au Venezuela, gouvernement et opposition ont franchi un pas significatif en se rencontrant pour la première fois après plus de 2 mois de protestations antigouvernementales. Mais la réconciliation semble loin d'être acquise tant les partis campent sur leur position. La participation du Saint-Siège était souhaitée par toutes les parties, mais le Vatican préfère ne pas intervenir de manière directe et s'en tenir à la diplomatie de la prière en attendant un éventuel moment plus opportun. Vendredi, le nonce apostolique à Caracas, Mgr Aldo Giordano, a lu devant les négociateurs une lettre d'encouragement du pape François et une autre du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Pas de médiation au Vatican donc, le Saint-Siège opte pour l'attentisme et pour l'accompagnement prudent du dialogue. Mgr Giordano nous dit comment la lettre du pape a été accueillie au Venezuela.
Elle a été accueillie comme quelque chose de très précieux par toutes les parties. Elle a été citée de nombreuses fois et elle a suscité de l'espoir, car elle indiquait que la voie de la violence n'a pas de futur et elle demandait le courage et la force. La patience de dialoguer, rappelant également quelques éléments du dialogue, le respect et la reconnaissance de l'autre. Et ensuite, le pape a parlé de la nouveauté du pardon comme capable d'ouvrir des voies vraiment nouvelles. Il a donc indiqué une perspective qui se trouve un peu au-delà de la polarisation et des problématiques indiquant la lumière. Et les salutations envoyées par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, ont également été accueillies avec grande joie et tendresse. Il est vrai qu'ici, au Venezuela, le secrétaire d'État est considéré comme un ami cher. Et on espère qu'il soit présent à Caracas dans ce moment du chemin de la réconciliation. En réalité, ici au Venezuela, l'Église est très considérée et tout le monde reconnaît qu'elle joue un rôle fondamental, même dans le processus de paix.
Justement, que peut apporter le Saint-Siège dans ces négociations ? Quel est son rôle ? Je crois que ce que le pape a indiqué dans son message constitue un peu le cœur de la présence et de la contribution du Saint-Siège, c'est-à-dire indiquer que la voie de la violence est une voie sans issue, indiquer qu'un dialogue est toujours possible, nonobstant toutes les difficultés réelles, et indiquer qu'il y a aussi une autre dimension, celle de l'intervention de Dieu, de l'appel au cœur du message évangélique. Et comme nous sommes au Venezuela et qu'ici il y a une religiosité, une foi commune en Dieu, aussi bien les membres du gouvernement que les membres de l'opposition déclarent dans leur majorité leur foi en Dieu et leur référence à l'Évangile.
Le nonce apostolique à Caracas, interrogé par Antonino Gallofaro. Les évêques catholiques de l'ex-Yougoslavie souhaitent être divisés en conférences nationales. La conférence épiscopale des saints Cyril et Méthode, qui comprend les évêques de Serbie, Monténégro, Macédoine et Kosovo, s'est réunie en assemblée plénière ces jours derniers en présence du nonce apostolique à Belgrade. Ils ont décidé de proposer au Saint-Siège de diviser la conférence internationale en 4 conférences nationales. Les problèmes auxquels ils sont confrontés, affirme-t-il, sont différents et le caractère international de la conférence entrave le dialogue avec les autorités civiles. À noter que la Macédoine et le Kosovo n'ont chacun qu'un seul évêque, le Monténégro en a 2 et la Serbie 6. Mais cela est déjà vrai, par exemple, pour la Moldavie, qui n'a qu'un seul évêque catholique. Avant-dernier volet de ce magazine, l'adoration de la croix du frère Patrick Préteau, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Je vous laisse en compagnie de sœur Catherine Aubin.
Les éditions du Cerf commencent une nouvelle série Lex Orandi. Le deuxième livre vient de sortir. Son titre est L'adoration de la croix. Son auteur, Patrick Préteau, à qui nous avons demandé d'où lui est venu ce sujet, l'adoration de la croix.
Je pense que le Vendredi Saint dans la liturgie catholique romaine est un lieu essentiel de notre découverte du Christ. Le Christ mort et ressuscité, parce que dès le Vendredi Saint, nous confessons la résurrection du Christ par-delà la mort ou à l'intérieur même du mystère pascal.
Comment confessait-on et comment aujourd'hui on confesse encore la mort et la résurrection du Christ? Est-ce que c'est ça votre question à propos de l'adoration de la croix?
Oui, tout à fait. Pour le dire très simplement, l'adoration de la croix, c'est un geste. Derrière, il faut entendre le mot grec de proskunesis. Par ce geste, les chrétiens du IVe siècle ont voulu confesser la seigneurie du Christ crucifié, ressuscité, dont l'épître aux Philippiens, le texte par excellence du mystère pascal. Donc ces chrétiens qui avaient reçu de l'apôtre Paul ce texte des Philippiens ont voulu confesser dans leur corps, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de s'agenouiller devant la croix, la seigneurie du Christ. Parce que ces chrétiens du IVe siècle aussi avaient découvert en même temps que le signe par excellence de la malédiction, Deutéronome 21-23, maudit soit quiconque est suspendu au bois, était devenu le signe de la bénédiction. Il suffit d'aller à Saint-Clément de Rome pour voir dans l'abside l'arbre aux oiseaux, cette figure de la croix victorieuse, la croix qui donne à vivre les chrétiens, la croix source de vie.
Cette adoration de la croix qui va exister et qui prend naissance au IVe siècle va opérer un retournement de sens?
Ah oui, oui, tout à fait. Les chrétiens du IVe siècle ont adopté à l'égard de la Sainte Croix un geste que les soldats de l'empereur faisaient.
Vous pouvez nous décrire ce geste?
Ce geste, il s'agit de se mettre à genoux et d'embrasser. Les deux actes sont derrière le mot d'adoration. Ce qui est intéressant, c'est qu'une certaine manière, c'est un anti-geste du point de vue chrétien, puisque à la fois la victoire du Christ ressuscité s'exprime dans son abaissement avec l'expression « afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers ». C'est-à-dire par ce geste de l'agenouillement devant la croix, les chrétiens confessaient la victoire du ressuscité sur la mort. En même temps, pour nous aujourd'hui, c'est un geste de communion à la mort du Christ pour avoir part à sa résurrection. Toute la Semaine Sainte est comme encadrée par la mise en route, si si j'ose dire, de la procession des rameaux. La vie chrétienne, c'est de mettre ses pas dans ceux du Christ pour aller avec lui jusqu'à la mort et participer avec lui à sa résurrection.
Quel apport pour notre vie chrétienne aujourd'hui?
Dans un monde contemporain marqué par tant de souffrances et encore marqué par les cassures du XXe siècle, dans ce monde, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. Et finalement, la liturgie du Vendredi Saint, paradoxalement, nous dit que la mort du Fils n'est pas le dernier mot de l'histoire, mais nous ouvre, au contraire, le chemin d'une histoire nouvelle que les théologiens appellent le royaume, l'eschatologie.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire de sœur Catherine Aubin. Et c'est l'heure de passer aux commentaires de l'évangile de ce dimanche 13 avril. C'est le récit de la passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26. Nous retrouvons le père Pascal Montavis.
Tout d'abord, Jésus envoie deux disciples chercher une ânesse et son ânon au village. S'ils rencontrent une objection, les disciples doivent répondre « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cette entrée en matière peut surprendre, mais elle nous montre que Jésus demeure maître des événements. C'est lui qui donne sa vie, librement. Personne ne la lui prend. Il entre dans Jérusalem pour obéir à la volonté de son Père, afin d'offrir le salut à tous les hommes. Le prophète Isaïe avait annoncé cette entrée du Messie à Jérusalem. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble, il monte une ânesse. » Jésus est donc bien roi, mais le signe de sa royauté est un signe d'humilité. Sa royauté n'est pas de ce monde, et il le signifie en choisissant une monture modeste. Lorsque les disciples amènent l'ânesse et son petit, ils disposent sur eux leur manteau. Jésus s'assit dessus. La foule fait de même en recouvrant le chemin de manteaux. Dans la Bible, les manteaux peuvent représenter nos péchés, ce qui nous alourdit et que Jésus vient ôter de notre vie. Ainsi, l'aveugle Bartimée, à la sortie de Jéricho, crie vers Jésus. Lorsque le Messie l'appelle, il est dit, et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Cette précision sur le manteau annonce la guérison et la libération que Jésus va opérer dans la vie de Bartimée. De même, dans l'Apocalypse, il est dit à propos de ceux qui seront sauvés, « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Leurs vêtements, c'est-à-dire leurs péchés, ont été effacés par le sacrifice de Jésus en croix. Ces manteaux déposés sur l'ânesse, l'ânon et sur la route représentent les péchés des hommes que Jésus vient effacer. Il est étonnant de voir la foule reconnaître en Jésus son Sauveur et proclamer en même temps « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée ». Jésus est pourtant bien plus qu'un prophète. La foule a donc encore besoin d'être enseignée. Elle acclame celui qu'elle ne connaît pas vraiment. Mais cette méconnaissance de la foule doit nous interroger. Reconnaissons-nous vraiment Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle? Ou est-il simplement pour nous un prophète, un homme d'exception qui nous donne un modèle à imiter? Enfin, nous pouvons relever le paradoxe entre la liesse de la foule et l'agonie dans laquelle entre Jésus, une agonie qui trouvera son paroxysme à Gethsémani, lorsque Jésus dira à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il priera son Père ainsi « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus nous montre ce que cela signifie de se sacrifier pour le bien des autres. Cet exemple d'une offrande parfaite de sa vie, nous pouvons la méditer tout au long de la Semaine Sainte afin d'accepter nous aussi de porter notre croix à la suite de Jésus.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.